Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Pierre Yves Frey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur, journaliste scientifique. On va en parler un peu. Je vous reçois aujourd'hui parce que ces jours-ci, au mois de mars, sort un nouveau livre pour vous qui parle de dinosaures dans la montagne. Dans la région de la vallée du Trien, le barrage du Vieux Émosson, des traces, vous faites une enquête à la fois archéologique, à la fois sur l'histoire des sciences, à la fois sur l'histoire de cette planète, la géologie, tout à fait passionnante sur la trace de ces animaux d'un autre âge dans notre région. Alors c'est pas au Vieux Émosson qu'on se rencontre, je pense qu'il y a encore un peu de neige là-haut, et puis les traces sont très très hauts, hein, 2400 mètres, donc je pense là il y a vraiment de la neige. Mais c'est à Baie, qui a des traces contemporaines, on va dire, de ces gros lézards d'Émosson.
Vous entendez quoi par des traces contemporaines?
Allez. votre enquête nous ramène à des temps très très lointains, c'est le Trias. Ouais. Et j'ai vu que les mines de sel étaient
D'accord.
Les mines de sel de Baie étaient un héritage de cette période-là.
Effectivement, ouais. Oui, effectivement, c'est un héritage de cette période-là parce qu'il faut s'imaginer que. Au Trias, évidemment, la Suisse ne ressemble pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. On est dans une configuration des continents à l'époque qui est très particulière. C'est ce qu'on appelle la Pangée, c'est-à-dire c'est une espèce de continent unique. Je dis souvent que ça ressemble un peu à un Pac-Man. C'est vrai parce qu'il y a bien une sorte de bouche qui est orientée vers l'est dans ce grand continent unique. Qui se situait à peu près sur l'équateur. Et puis cette bouche, elle est constituée, alors tout autour du continent unique de cette Pangée, il y a un océan qu'on appelle la Pantalassa. Et puis dans cette bouche, il y a un autre océan qui s'appelle la Tétis et qui est en train de s'ouvrir petit à petit. Donc la Suisse, elle est plutôt dans ce coin-là, elle est plutôt à la bouche de ce continent unique, une partie des territoires de la Suisse. Alors une partie de la future Suisse est émergée, ce sont des terres sur lesquelles on trouve des animaux, et puis une partie de la Suisse est sous l'eau, et dans une eau qui est parfois pas très profonde, et donc il y a de l'évaporation, et puis dans cette évaporation marine, eh bien, ce qui reste, c'est du sel. Et les mines de Baie sont effectivement du Trias, et elles datent de cette époque. Ce sont des témoins de cette évaporation de ces lagunes qui existaient à l'époque.
Alors ça, ça nous ramène déjà, on est dans les centaines de millions d'années. Hein.
Alors oui, effectivement, il faut que je le précise, le Trias, c'est la première période de ce qu'on appelle le Mésozoïque. Donc le Mésozoïque, c'est un trio de fait du Trias, du Jurassique et du Crétacé. Généralement, les gens connaissent assez bien le Jurassique et le Crétacé. Pourquoi? Parce que c'est les dinosaures, et puis voilà, on les connaît bien. On oublie un peu facilement le Trias, qui est peut-être un peu moins connu, c'est pourtant là qu'apparaît ses premiers dinosaures. Enfin, toujours est-il que, voilà, le Trias commence à 250 millions d'années, dure à peu près jusqu'à 201 millions d'années. Et puis le Mésozoïque, du coup, ben, c'est 250 millions d'années. Jusqu'à 66 millions d'années, la fin du Crétacé, avec la chute de la météorite, voilà, les volcans.
Pour aller vite, le Trias, arrivée des premiers dinosaures ou assimilés, hein, voilà. Le Jurassique, l'âge d'or des dinosaures, et le Crétacé, la fin, l'extinction.
Exactement.
L'extinction massive de cette période animale-là.
Oui.
Alors, on reviendra assez largement sur votre livre dans la deuxième partie de cette émission. On est déjà bien entré dans le dur, là, avec des mots compliqués et du langage scientifique. Vous êtes une sorte de dinosaure, vous aussi, parce que vous êtes un journaliste spécialisé, un journaliste scientifique. Ça n'existe plus tellement, ça, aujourd'hui.
Non. Ça n'existe plus tellement, je ne sais pas. Il y en a encore quelques-uns. Je pense que ça existe moins, non pas parce que...
Qui regarde arriver la météorite.
Ouais, c'est ça. Non pas parce que on a moins besoin d'eux, mais il y a moins d'organes de presse aussi. Donc la presse a quand même beaucoup diminué depuis les temps où j'étais journaliste. Heureusement, il y a le service public qui peut encore justement
Voilà, on enregistre deux jours avant, avant l'échéance de la votation sur le service public, donc l'émission passera après, on ne va pas présumer ce qui va se passer, ce qui va se passer dimanche. Sans parler de forcément du service public, vous avez assisté à quelques extinctions massives, hein. Vous avez travaillé à l'Hebdo, vous avez travaillé à la Suisse, ouais. Des titres qui ont disparu. Pour ceux qui sont restés, il y a aussi, par la diminution des moyens, la diminution des marchés publicitaires, etc., il y a aussi une difficulté à avoir des spécialistes.
Sans doute. Avec moins de moyens, vous pouvez moins vous permettre d'avoir des spécialistes. Et moi, j'ai bien constaté ça. Dans les derniers temps où j'étais journaliste, on nous demandait d'être de plus en plus généralistes. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi j'étais vraiment spécialisé sciences, et puis tout d'un coup on me demandait de faire un papier sur la politique. C'est pas que j'étais scandalisé par la demande, c'est juste que tout d'un coup je me rendais compte que j'étais pas compétent, et que je trouvais pas ça très juste pour le lectorat. D'ailleurs, ce problème des spécialistes, c'est presque un problème philosophique aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre. C'est que on met de plus en plus en doute, enfin une certaine partie de la population, met de plus en plus en doute la parole des spécialistes, au motif qu'ils font partie d'une élite.
Et ça ne concerne pas que les journalistes, hein. Les scientifiques sont très touchés par cela.
C'est exactement ça. Et donc voilà, donc on se méfie un peu des spécialistes, alors qu'ils sont plus importants que jamais. Je trouve ça relativement dommage, mais c'est une évolution qu'il faut constater.
Bon, c'est assez fascinant en tout cas d'avoir consacré une partie de sa vie professionnelle. Vous êtes sorti du journalisme aujourd'hui à essayer de comprendre ce qui nous fait avancer, la science. J'ai vu que vous aviez un dernier livre qui nous rapproche de la région aussi. Vous avez fait un livre sur le tsunami du Léman. Hein. Donc je vois quand même, vous venez de Genève, vous. Et puis quand vous regardez de notre côté, c'est un peu la catastrophe. Hein. C'est les gros lézards menaçants ou un rocher qui tombe et qui va raser Genève.
Non, je vois pas les choses comme ça. C'est, au moins chez vous, il se passe des trucs intéressants. vous savez, l'histoire de ce tsunami déjà. Bon.
C'est le rocher du Torre de Noum, qui est tombé, on le sait aujourd'hui, et qui a provoqué un tsunami sur le lac Léman.
Exactement. Il faut que je vous avoue un truc, parce que comme peut-être beaucoup de journalistes, hein, j'en sais rien, je suis quelqu'un qui a pas osé échouer, aller savoir quoi, dans la fiction. J'aurais adoré inventer des histoires. J'y arrive pas, je suis un foutu d'avoir une quelconque imagination. Donc en gros, j'ai de la chance, c'est que dans le domaine scientifique, j'arrive à trouver des histoires qui remplacent l'imagination qui me manque et qui me permet de raconter des histoires.
Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y en a chez nous.
Ouais.
On a toujours l'impression que c'est à l'autre bout du monde.
Oui, c'est ça. C'est
l'incendie de Lisbonne, le Krakatoa, etc. Il y a des trucs chez nous.
Exactement, il y a plein de trucs chez nous. Et donc, pour moi, c'est du pain béni. Alors, il se trouvait qu'accessoirement, ce sont des collègues et amis des sciences de la Terre de Genève, Stéphanie Girard-Clot et Katrina Kremer, qui en, je crois, 2010, ont trouvé assez par hasard, et c'est ça qui est assez délicieux, une grosse anomalie sédimentaire au fond du lac, alors qu'elle faisait de la cartographie des fonds du lac pour autre chose. Et là, tout d'un coup, on a compris, parce que c'est une vieille histoire, cette histoire du Torre de Noum.
Il au existe, 6e siècle. Hein.
Ouais, ouais. En 563, il existe deux textes de deux évêques qui nous expliquent qu'il y a eu quelque chose d'énorme sur le lac. Alors, après des siècles et des siècles, on peut croire que c'est une légende. Et puis en fait, là, on s'est aperçu que c'est vraiment la première preuve absolue qu'il y a vraiment eu quelque chose d'énorme, parce que cette anomalie sédimentaire sur les fonds du lac, elle est considérable. C'est une épaisseur de dingue. C'est métrique, donc ça n'a rien à voir avec la sédimentation normale, c'est-à-dire le dépôt des sédiments qui sont amenés par le Rhône, qu'on peut constater année après année quand c'est un régime normal. Et donc, là, tout d'un coup, elles se sont rendues compte sur le bateau, nom d'un chien, on vient de trouver la preuve de cette catastrophe de 563. Donc maintenant, ce qu'on sait, parce que là-dessus sont venues se greffer différentes choses, des recherches géologiques, des recherches archéologiques, etc. Donc, on pensait que c'était peut-être tombé du Gramont, maintenant on sait que c'est la Suche, probablement, hein, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, Et d'ailleurs, ça se voit, hein, elle a une sacrée falaise. Donc il y a un gros bloc, c'est plusieurs dizaines de millions de tonnes qui sont tombées sur le delta du Rhône. Et puis, ça a provoqué une onde sismique qui s'est transmise jusqu'au lac. Et puis là, il faut imaginer que le Rhône, en permanence, il dépose des sédiments. Donc vous avez une sorte de talus comme ça, sédimentaire, avec une pente qui peut être assez critique. Et au moment où cette masse rocheuse est tombée sur le delta, l'onde s'est transmise jusqu'à ce talus. La pente était critique. Et tous les sédiments sont partis en avalanche sous la lacustre. Et c'est ça qui a soulevé une vague qui a pu faire jusqu'à 12 mètres du côté de Lausanne et jusqu'à 8 mètres à Genève, puisque dans ce récit, on parle même que l'eau passe par-dessus les premiers contreforts de la ville.
Avec des dégâts considérables, on l'imagine. Le tour du lac était habité.
C'est ça, exactement.
Et largement habité à cette époque-là, comme aux époques précédentes. Bon, c'est fascinant quand... vous le dites, hein, quand on peut aller retrouver un texte ancien et le faire correspondre avec une recherche scientifique actuelle, on est dans le romanesque, là.
Complet, vous, hein. Absolument. Moi, c'est ce que j'ai adoré. Et puis, c'est ce que j'aime faire aussi dans mes livres, ce que j'essaie de faire. C'est la science aujourd'hui, elle est caractérisée par une hyper-atomisation, une hyper-spécialisation. Donc, quand vous êtes journaliste scientifique au quotidien, vous donner des petits points de vue, on a découvert ci, on a découvert ça. Moi, ce que j'essaie de faire dans ces livres, c'est de recoller les morceaux d'une certaine façon et puis de redonner une vue un peu plus large. Donc, ça peut donner l'impression que je fais des digressions, que je pars à droite, à gauche, mais en fait, ça permet un peu de recoller les morceaux. Donc, je relis tout d'un coup de la sédimentologie, la science des sédiments, à de l'histoire du 6e siècle, à des choses comme ça. Évidemment, j'invente rien. Je suis aidé en cela par tous les spécialistes. Et puis moi, ensuite, je nous la gerbe.
Voilà, dans la deuxième partie, on verra comment vous avez fait correspondre les avancées scientifiques avec les sources écrites du Trias ancien, puisque on va parler de ces dinosaures, ou qui n'étaient pas des dinosaures, vous allez nous expliquer cela, présents ou pas du côté des Alpes et du vieux Émosson. Ça va être une histoire fascinante de préhistoire, de paléontologie, de géologie et d'histoire des sciences. On se retrouve dans un instant.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Pierre-Yves Fray, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On va entrer dans le dur de votre recherche et de votre nouveau livre, Un dinosaure dans la montagne, autour de cette découverte incroyable de traces d'animaux très 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 anciens à 2400 mètres d'altitude au-dessus du barrage des Mossons. C'était dans les années 70 du siècle passé. On est toujours sur ce plateau de Chiètre à Bé. Alors un jour, avec un phénomène climato-géologique aussi intéressant, hein, qu'on voit de plus en plus souvent, c'est les sables du Sahara qui arrivent chez nous. On a un jour voilé, beau mais voilé. Peut-être que ce sable va tomber un petit peu quelque part et sédimenter des traces d'animaux qui seront redécouvertes dans quelques millions d'années. C'est bien ça, votre aventure. Hein.
Ce sera les traces de votre chien.
Mais c'est ça, ou les nôtres. Ou les nôtres.
Ou les nôtres, effectivement.
Il y aura des conjectures sur la différence de nos semelles qui nous feront probablement appartir à une race différente.
Ouais. Nous aussi, on sera des dinosaures.
C'est ça.
Oui, effectivement, cette histoire des dinosaures des Mossons. Pourquoi on parle de dinosaures des Mossons et pourquoi j'ai encore titré là-dessus alors qu'on sait aujourd'hui que ce n'était pas des dinosaures? C'est parce que je pense que la publicité donnée à cette découverte doit beaucoup au fait qu'on a imaginé que c'était des dinosaures. Que tout d'un coup, on dise, il y a des dinosaures, il y avait des dinosaures, parce qu'on l'imagine, à 2400 mètres d'altitude, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, parce que les dinosaures, on les voit volontiers en plaine. Peut-être qu'on les voit déjà pas forcément en Suisse, mais plus volontiers dans quelques pays exotiques. Hein. On n'imagine pas que la Suisse, elle ait pu avoir un passé aussi lointain. Or, bien sûr, Suisse...
Jura, Jurassique, il y a des pistes quand même.
Alors oui, ça c'est sûr. On est bien d'accord. Mais du coup, je pense que c'est pour ça que cet endroit a pris une telle publicité, et a quasiment... constituer une espèce de légende locale. Et puis, il faut dire que le contexte de la découverte est aussi intéressant.
Et il est romanesque, là, encore une fois.
Ouais, hein,
c'est absolument dingue. Ouais. C'est un géologue français, il s'appelle Bronner. Il se balade en famille, donc il n'a vraiment pas d'ambition de recherche. Et il découvre ces traces qui sont gravées dans la roche.
Ouais.
Il se dit, ça, c'est pas des traces naturelles. Et il essaye de préserver ça. Il y a un risque que ça sorte dans la presse. Évidemment, il faut étudier le site avant que les curieux viennent le détériorer. Tout cela est assez romanesque et roman policier. Et puis, découverte incroyable qui nous amène, et là, je veux une explication vulgarisée, monsieur le journaliste, à comprendre comment ces traces à 2400 mètres d'altitude ne sont pas celles du Dahu, mais de bestiaux qui n'étaient vraiment pas équipés pour aller à 2400 mètres d'altitude.
Effectivement. Alors, on en revient sur le passé de la Suisse qui, il y a 230 millions d'années, ne ressemble absolument pas à ce qu'elle est aujourd'hui, 240 millions d'années.
Tout plat au bord de la mer.
Alors, tout plat, non. C'est ce qu'on appelle un massif qui est perdu dans la Tétis, cet océan d'alors. C'est une sorte d'immense île, presque reliée au continent constitué alors du massif central, de ce qui était aujourd'hui le massif central. Et c'est ce qu'on appelle donc le massif vindélicien. Donc, ces bestioles, elles sont sur ce massif. Et puis, comme il y a... c'est pas un massif très élevé, c'est le reliquat d'une ancienne chaîne de montagnes, mais il y a suffisamment de pentes pour qu'il y ait des rivières en tresse. Et donc, les fameuses bêtes des Mossons marche, non pas au bord de la mer comme on l'a d'abord cru, mais elles marchent sur les bancs de sable de ces rivières en tresse. Et c'est là qu'elles vont laisser leur marque.
Oui, on est obligé d'aller un peu plus vite, Pierre-Yves Fray. C'est pas les Alpes telles qu'on les connaît aujourd'hui, parce que après ces traces, après ces animaux, arrive la dérive des continents. Elle a été, j'imagine, bien avant, mais enfin, le choc entre les plaques africaines et eurasiatiques, ouais. Et donc la naissance des Alpes. Et c'est ce qui explique, c'est un nom scientifique, hein, l'orogenèse, c'est ça ?
C'est ça.
C'est fou. Tout ça, on l'apprend dans votre livre. Et donc, les Alpes naissent et entraînent avec elles ces traces qui, par un miracle chimique et géologique, ont été préservées.
Ouais, alors c'est ça, je pense qu'on parle de miracle, alors c'est pas très dans le contexte de la science, disons. En tout cas, il y avait quand même assez peu de chance. Chaque fossile
qu'on
trouve...
Donc votre bouquin, il n'est pas tant fait pour les créationnistes qui pensent que Dieu a créé le monde. Donc on peut mettre un petit miracle de ci, de là pour les rassurer.
Oui, si vous voulez, effectivement. Mais oui, effectivement, donc en fait, ces traces, elles sont laissées il y a 240 millions d'années. Et puis, ensuite, il se passe quantité d'événements géologiques et les Alpes... le rapprochement de l'Afrique et de la marche sud de l'Europe, vont créer les Alpes en deux vagues. La première vague, il y a 110 millions d'années, et la deuxième vague, il y a 30 millions d'années. Alors, les traces des Mossons, ces anciens sables qui se sont transformés en grès, en roches, ils sont concernés plutôt par la deuxième vague, c'est-à-dire on commence à grimper, on commence à former les reliefs il y a 30 millions d'années. Et c'est pour ça, tout d'un coup, qu'on peut retrouver des... parfois même des bords de mer, des fonds de mer au sommet des montagnes. Hein. Tout ce qui est posé sur les Alpes, ce qu'on appelle la théorie des nappes, c'est des anciens fonds marins qui ont été déplacés par l'orogenèse, par la formation des Alpes, et qui sont venus se poser sur les sommets.
Il arrive qu'on trouve des fossiles d'animaux marins, etc.
Voilà, exactement.
Au sommet des Alpes, etc.
Exactement.
Alors ça, c'est déjà complètement fascinant. On apprend aussi dans votre livre pourquoi on retrouve des traces et pas des ossements. Parce que, voilà, les ossements ont été grillés par le temps, alors que c'est philosophique d'ailleurs, hein, le vide reste, ouais. C'est-à-dire l'empreinte d'une patte qui crée un vide,
ouais, c'est vrai.
Alors que la matière, elle, a disparu. On apprend tout ça, et c'est le dernier point que j'aimerais discuter avec vous, enfin l'avant-dernier, c'est aussi l'histoire des sciences. Hein, comment on a, au fil du temps, traduit, appréhendé, compris ces traces de l'ancien temps. Il y a eu l'époque où on essayait de trouver des raisons religieuses, puis des raisons scientifiques, puis aujourd'hui toujours des raisons scientifiques, mais complètement différentes d'il y a 50 ans ou il y a un siècle. Donc l'évolution des sciences, ça c'est fascinant.
Alors moi c'est ça qui me fascine, c'est vraiment l'évolution de la pensée. On peut être tenté de se moquer de ceux qui ont posé des premières interprétations scientifiques, hein, au début, disons, du 19e siècle, des choses comme ça. Alors moi, j'ai pas du tout envie de me moquer. Ça paraît parfois un peu absurde à nous, personnes du 21e siècle. Néanmoins, ils avaient cette curiosité qui était absolument extraordinaire. Et là, même en 50 ans, c'est-à-dire depuis la découverte et aujourd'hui, il y a eu deux interprétations des traces d'Emosson. On est parti sur des dinosaures qui étaient au bord d'une plage. Et aujourd'hui, on parle plutôt de crocodiliens hauts sur pattes qui marchaient sur les bords d'une rivière en tresse.
Les archosaures.
Alors,
les pour le grand public, archosaures, ouais. Dinosaures, potato, potato. Hein.
Ouais, alors,
c'est
voilà.
Quand même des gros lézards. Quoi.
On pourrait surtout parler de... Si on voulait, on dit dinosauriens et crocodiliens dans des termes, disons, vulgarisés. Mais sinon, ces bestioles-là, qui étaient des crocodiles hauts sur pattes, d'environ 2,53 m, avec des sacrées gueules, hein. Ça avait de la dent quand même, c'était vraiment des prédateurs. Et puis, on les appelle des pseudo-suchiens dans le langage de ceux qui classent le vivant. Ouais. Et voilà. Alors bon, maintenant, alors c'est sûr que si on parle des traces de pseudo-suchiens et Emosson, ça va faire venir personne. Hein. Tandis que les archosaures, il y a encore un petit fond voilà, de dinosaures.
Sur le sentier didactique, vaut mieux mettre un T-Rex.
C'est clair.
pour la vulgarisation des choses. Mais moi, je trouve ça assez fascinant sur l'histoire des sciences de voir que les théories changent complètement, dans tous les domaines scientifiques d'ailleurs. Hein. C'est pas réservé à la paléontologie. Et on pourrait prendre cela pour une fragilité de la science. Finalement, rien n'est vrai, rien n'est sûr. Pourquoi ce qui était sûr il y a un siècle ne l'est plus aujourd'hui, donc pourquoi ce qui est sûr aujourd'hui le serait ? Et moi, j'y vois plutôt la force de la possibilité de ce système scientifique de se remettre en question. C'est pas une force qui est donnée à toutes les activités humaines.
J'ai envie de faire un parallèle, je ne sais pas si ça m'est autorisé, mais je vois la science comme la démocratie. C'est quoi leur force? C'est leur faiblesse. C'est cette capacité de se renouveler tout le temps. C'est cette capacité de discuter, de débattre, et puis d'arriver à une solution meilleure. Alors certes, ça prend du temps des fois, mais on y arrive toujours. Et ce sont deux systèmes qui, pour moi, sont très importants. La science ne détient pas une vérité. Ouais. Elle empile des vérités. C'est pas une vérité avec un grand V, on est bien d'accord, et on découvre toujours des choses. Je pense que la théorie de la relativité d'Einstein, à mon avis, je peux me tromper, elle sera jamais remise en cause. En revanche, elle pourrait être précisée dans l'avenir. Donc on empile des choses, c'est vraiment un empilement pour moi. Et il faut toujours avoir conscience de ça. Les gens ont un rapport peut-être un peu ambigu, ambivalent à la science, c'est qu'ils attendent d'elle qu'elle leur dise des grandes vérités.
Des certitudes. Hein.
Des certitudes. Ouais. Et tout d'un coup, quand ils se constatent qu'elle se trompe, parce qu'elle se trompe parfois, on se débarrasse de tout l'édifice, alors que non, il ne faudrait pas.
Bon, ce livre, Un dinosaure dans la montagne, avec cette aventure donc, du vieux Emosson, on l'a bien compris, aventure de l'histoire des sciences, aventure romanesque de la découverte de ces traces, c'est aux éditions Savoir Suisse. Merci à vous, Pierre Yffray. Je voulais encore parler d'un point, mais on est à la fin de cette émission, donc très rapidement, s'il vous plaît. Vous terminez de façon un peu pessimiste, hein, parce que ces traces, on les découvre parce que les neiges éternelles disparaissent. Dans les années 70, il y a eu des grosses canicules. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de choses sont dans le permafrost sibérien ou dans les glaciers et sont prêtes à nous tomber dessus, y compris, on en parle souvent, des bactéries, des virus, d'autres tout petits bestiaux, par contre, qui pourraient être dangereux pour nous. La philosophie, elle est là. Le réchauffement climatique, ça fait plaisir aux géologues, mais c'est préoccupant.
C'est évidemment préoccupant parce que je pense que je suis un être humain avant d'être un géologue. Et puis surtout, quand on est géologue, on a un tout petit peu accoutumé aux périodes de grand réchauffement climatique qu'a connu la Terre. Mais ce qu'on vit en ce moment se déroule avec une rapidité absolument inégalée. Et c'est pour ça qu'on peut guère douter des origines anthropiques de ce réchauffement.
Voilà, Les dinosaures regardaient leur fin arriver lentement, hein. Enfin bon, peut-être pas avec la météorite, mais pour nous ça s'accélère et c'est cette sixième, je crois, hein, extinction des espèces oui. que nous vivons aujourd'hui avec les changements climatiques. On va rester là-dessus. Merci infiniment pour cette balade, Pierre Yffray. Et puis, vraiment, de la curiosité. Beaucoup d'iconographie aussi dans votre livre, hein, des photos, des dessins, des illustrations de cette formidable aventure des dinosaures de la montagne.